Séance un peu particulière parce que c'est la dernière de cette année. Je ne sais pas si c'est la dernière du séminaire. J'ai pensé à un moment que non, qu'il y aurait une suite. Je suis un peu plus perplexe à cette heure, peut-être pour diverses raisons. Enfin, vous me direz, on fera le point tout à l'heure. En tout cas, c'est quand même la dernière de cette année. Elle est particulière aussi par le fait que je l'ai préparée plusieurs fois, c'est-à-dire j'en ai eu plusieurs versions avant d'arriver à ce que je vais vous dire à peu près ce soir, dont la dernière mouture a été d'une certaine manière provoquée par la remarque ou la question que m'a adressée Pablo Gomez à la fin de la dernière séance. Qui est impliqué d'une certaine manière que j'explicite davantage quelque chose comme une prise de position de mon travail dans le champ théorico-philosophique plus global. Et d'une certaine manière, ça m'a inspiré, si j'ose dire, cette espèce de conclusion à dimension quelque peu méthodologique que je vais vous proposer ce soir. Il y a une dimension méthodologique parce que, au fond, je n'arrive pas à oublier que j'aurais quand même été pendant un nombre d'années non négligeables quelqu'un qui avait le droit de se présenter comme directeur de recherche. Et que j'ai toujours du mal à ne pas, au moins pour moi-même, et donc là, en l'occurrence, pas seulement pour moi-même, mais pour vous aussi, essayer d'expliciter. Direction, ça ne veut pas dire seulement, et en tout cas pas dans mon esprit, avoir la main sur, être le directeur, le chef, si vous voulez, mais indiquer une ligne, indiquer une orientation. J'ai toujours du mal à ne pas, au moins pour moi-même, expliciter l'orientation du travail dans un champ de réflexion où évidemment d'autres, heureusement que moi, interviennent. Donc je vais aller vers, au moins pour cette année, une conclusion de ce type-là qui essaierait de préciser l'orientation du travail que je vous ai proposé, finalement pas seulement cette année, mais aussi depuis déjà l'an passé. Alors j'articule désormais mon propos de ce soir au propos de la dernière fois où je parlais. Je vais le dire en termes à la fois proches et un petit peu différents de la dernière fois où je parlais de la possibilité d'autoriser, alors il y a un jeu de mots que je dois à une vieille lecture de Pierre Bourdieu qui avait fait un petit livre s'intitulait « Ce que parler veut dire », où il jouait sur la proximité des mots autoriser et autoriser l'auteur. J'ai parlé la dernière fois de la possibilité d'autoriser ou d'autoriser, dans une certaine mesure, l'espacement de l'expérience sociale, de l'expérience même, pour être plus précis, du champ social, autoriser l'expérience, l'espacement, pardon, de l'expérience du champ social en déposant au moins parfois dans ce champ, des objets, des constructions capables de susciter l'étonnement. C'est-à-dire, alors, je ne change pas le fond de ce que je vous proposais de dire la dernière fois, mais je vais le dire autrement à l'instant. J'évoquais la possibilité de déposer parfois dans le champ social des objets capables de susciter l'étonnement. C'est-à-dire, au fond, de distraire de la distraction sans laquelle on ne saurait, au moins de nos jours, traverser des lieux sociaux, passer au travers de lieux sociaux, être des passants libres de traverser. Donc, il s'agissait de ça, d'évoquer la possibilité de déposer dans le champ social des objets capables de distraire de la distraction sans laquelle on ne saurait traverser ou passer au travers des lieux sociaux désormais ordinaires, lieux dont le motif majeur en général, par ailleurs, mais certes pas détonné. C'est-à-dire que c'est une formule un peu compliquée pour dire que j'ai tourné autour de ça toute l'année, je n'en ai pas vraiment parlé, mais que le motif, la raison d'être, si vous voulez, de la société, ça n'est évidemment pas étonné, d'être traversé avec étonnement, son motif majeur, et je veux dire ça, pour parler vite, probablement bien plus fonctionnel que ça. Disons que son motif majeur, c'est d'être un lieu de fonctionnement pour quelque chose qu'on peut appeler l'économie, par exemple. Bon. Mais il me semble qu'on peut envisager, il y a des exemples pour ça, il y a des cas d'objets déposés dans les champs sociaux qui espacent l'expérience de ce champ, même si par ailleurs ce champ n'est pas là pour ça de façon majeure. Donc je repars ce soir de cette notion. L'étonnement, dont j'avais impliqué le mot suite à une lecture, un rappel d'une lecture de Kant, associant, vous en souvenez, la notion de sentiment et celle d'étonnement. C'est-à-dire, la question c'est qu'est-ce qui peut être fait pour que nous ayons le sentiment de nos passages dans les champs sociaux? Pour que nous en sentions l'expérience et non pas que nous subissions dans une certaine mesure distraitement, plus ou moins distraitement, cette expérience. Donc je repars de là, du sentiment et de l'étonnement qui fait sentir le sentiment du passage dans les milieux sociaux. Le sentiment et l'étonnement en question ne sont pas a priori les motifs sociaux. Autre façon de dire ce que je viens de rappeler laborieusement depuis que j'ai commencé à parler il y a quelques minutes. Le sentiment et l'étonnement ne sont pas a priori les motifs sociaux. Ils relèvent plutôt, c'est ce que j'ai essayé de dire à les séances précédentes, d'une expérience esthétique susceptible, mais susceptible seulement d'avoir lieu par occasion. Occasionnellement, donc, dans le champ de la vie sociale, espaçant alors la traversée de ce champ ou le passage dans ce champ. Pour reprendre une formule d'un livre que j'ai lu pendant que je faisais ce séminaire de Michel Guérin, qui s'intitule tout simplement André Leroy-Bourhan, sous-titre L'évolution ou la liberté contrainte, donc pour reprendre une formule de cette belle formule de Michel Guérin dans ce livre-là, l'être, en fait, le vivant qui est dans la condition de sentir, ce vivant que nous sommes, qui peut sentir, qui ne sent pas toujours sa propre expérience, mais qui peut avoir le sentiment de son expérience, cet être-là qui est dans la condition de sentir, qui se trouve dans la condition de ne pas excéder sa propre condition. Alors ça, c'est un peu compliqué. Peut-être que les humains sont des êtres qui auront, tout au long de leur longue, très longue histoire anthropologique, excédé leur condition initiale. C'est-à-dire qu'ils ne vivent plus, je pourrais dire ça très, très banalement, mais avec des mots qui ne conviennent pas, en pensant à Rousseau, par exemple, en disant... L'être humain n'est plus dans les conditions naturelles de sa vie. Donc, il a excédé ses propres conditions d'existence, je dirais, initiales ou, si vous voulez, anthropologiques. Donc, cet être-là, nous autres, pour autant que nous sommes dans la condition de sentir, pour autant que nous n'excédons pas cette condition, par exemple, que nous ne l'excédions pas dans un vouloir, ou dans un projeté, dans des affairements, dans des préoccupations, dans toute une obsession liée à ce que nous appelons nos affaires, et qui généralement, parce que nous projetons, parce que nous sommes préoccupés, parce que nous sommes obsédés par nos affaires, nous ne sentons pas notre propre expérience de la vie. Pour sentir son expérience de la vie, il faut y être présent. Et par définition, l'homme qui est dans le projet, l'homme qui est dans le vouloir, l'homme qui est affairé, par des objets extérieurs à son moment de présence possible, là, précisément n'est pas présent à sa présence. Voilà. Donc cet humain qui projette, qui veut, qui est affairé, et excède sa condition de sentir, mais pourtant, alors c'est ça que j'ai lu chez Michel Guérin, il lui arrive de temps en temps de résider dans le sentir. Et à ce moment-là, voici le mot que j'ai retenu, qui m'intéresse beaucoup de Michel Guérin, il vague. Voilà, il vague, il est vacant. Il arrive que l'humain qui projette, qui veut, qui est affairé, etc., autrement dit, qui est socialisé, il arrive à telle ou telle occasion, dont il faut chercher peut-être les conditions de possibilité, il lui arrive de vaquer. Cette vacance du sujet, c'est être subjectivement en vacances. Alors, c'est peut-être ce qui nous arrive quand nous disons que nous sentons quelque chose, que nous avons le sentiment de ce qu'il y a autour de nous. Pas simplement la perception de ce qu'il y a autour de nous, mais le sentiment de ce qu'il y a autour de nous, sentiment que Kant dit avoir en son sein quelque chose de plus que le seulement percevoir, qui est le percevoir avec étonnement. C'est ça pour lui, sentir. Donc, il se peut que l'être humain qui par ailleurs projette, veut, se projette, est ailleurs que dans son temps d'expérience, il lui arrive dans certaines occasions de résider dans le sentir, et à ce moment-là, il est comme en vacances. Quelque chose qui est lors de ça, il vaque. Voilà. Cette vacance, cet être subjectivement en vacances, ne sont pas a priori des motifs sociaux, même si c'est toute l'hypothèse sur laquelle j'ai essayé de réfléchir depuis 6 séances, même si ils ne contredisent pas à la société. Chez Kant d'ailleurs, le sentiment, ce qu'il appelle le sentiment, qu'il définit dans la critique de la faculté de juger, le sentiment nourrit non pas la communication, mais ce qu'il appelle la communicabilité. C'est-à-dire quand j'ai un sentiment, je ne parviens pas à le faire passer aux autres nécessairement, c'est-à-dire à le communiquer, mais je suis dans la situation d'espérer pouvoir le faire. Il y va de quelque chose qui est communicable, même si ça n'est jamais effectivement communiqué. Donc le sujet en vacances, à l'occasion de tel ou tel objet qui s'est présenté à lui, le sujet en vacances, le sujet qui vaque, n'est pas a priori un sujet socialisé au sens ordinaire du terme, même si néanmoins son état d'esprit ne contredit pas à ce que, par exemple, Kant appelait la communicabilité de l'expérience. Le sentiment, l'étonnement peuvent donc être éprouvés par un être à condition sociale que la société est par ailleurs et de façon dominante capable d'affairer. Le sentiment et l'étonnement sont des états d'esprit qui peuvent arriver à un être à condition sociale que la société est par ailleurs, et je répète, de façon dominante, capable d'affairer. Je pourrais dire, dans un esprit kantien, que la tendance de la société, c'est le plus généralement de prendre le pas sur le sentiment esthétique, mais il arrive que soit déposé dans les milieux ou les environnements sociaux, des objets, des constructions, qui mettent le sujet affairé en deçà, dans une certaine mesure, de son affairement et le rappelle au sentiment esthétique dont il est capable. Alors, toute cette thèse un peu compliquée, je suis revenu au début du séminaire, au moment de le conclure, pour me demander si tout ça se bouclait à peu près correctement. Donc, cette thèse que je viens de rappeler de façon peut-être un peu compliquée, je ne l'avais pas interdite lors de l'introduction du séminaire de cette année, lorsque j'ai lié à ce moment-là l'idée de société à celle d'une subjectivation particulière. Je ne l'ai pas interdite non plus lorsque, au même moment, je suggérais que la société pouvait être, rappelez-vous, une instance de trans-individuation. Je ne voulais pas dire à ce moment-là, au début du séminaire de cette année, que l'existence humaine, suivant en quelque sorte une ligne d'évolution, avait à se finir, à s'achever ou à se parachever dans ce que je viens d'appeler l'affairement social ordinaire. Au contraire, j'ai cherché à vous proposer de penser à l'inverse, que la vie humaine, une existence humaine, ne se finit pas dans la socialisation, ne s'achève pas dans la socialisation. Je ne voulais pas dire au début du séminaire que l'existence humaine pouvait s'orienter seulement sur la tendance majeure, en effet, de la société, qu'est le développement des affaires, des affairements. Plus récemment, dans le cours du séminaire de cette année, il m'est arrivé de mentionner le nom de Leroy Gouan, sur lequel je vais un peu revenir aujourd'hui. Par extension de cette référence qu'il m'est arrivé de faire à Leroy Gouan, je dirais ce soir que toute une anthropologie, voire peut-être toute l'anthropologie, fonde sa compréhension de l'humanité sur la puissance du groupe. Ou, si vous voulez, le caractère finalement majeur pour comprendre l'existence humaine de ce que les anthropologues appellent le groupe humain. Peut-être par traduction, je peux appeler, ou vous pouvez appeler avec moi, société. Alors, il y a peut-être une exception dans l'anthropologie, en tout cas une à ma connaissance, que certains qui suivent le séminaire connaissent, c'est Albert Piette, hein, au travail de qui je vous renvoie. Je me demande si Albert Piette n'est pas un anthropologue qui fait exception d'une certaine manière à la thèse majeure de l'anthropologie selon laquelle ce qui fonde l'humanité, ce qui est majeur par conséquent pour comprendre ce que c'est que l'humanité, c'est le groupe avec toute sa puissance, finalement, alors je ne sais pas si ça veut dire de domination, hein, mais de structuration pour le moins de l'essentiel de l'expérience humaine. Alors mon parti à moi, en fait, le parti que j'aurais tiré d'une série d'autres lectures que celles des anthropologues, le roi Gourand notamment, mon parti que j'aurais tiré d'autres lectures que celles des anthropologues, et que j'ai maintes fois mentionné en me référant, comme vous l'avez plusieurs fois entendu, à Anna Arendt, mon parti qui ne vient pas de l'anthropologie, mais plutôt de lectures extérieures à l'anthropologie, comme par exemple celle d'Anna Arendt, mon parti est de répondre négativement à la question ou à la thèse qui présupposerait qu'il y a dans l'anthropologie une compréhension suffisante de l'humanité, de l'existence humaine, ou ça revient même qu'il y a dans la dominance du social une bonne raison de comprendre ce que c'est essentiellement que l'humanité. Mon parti, pour le dire en termes plus simples et plus provocateurs, est de considérer que la vie sociale n'est pas la fin essentielle de l'existence humaine, ou en tout cas n'est pas la fin à soi seule de l'expérience humaine, elle n'en est qu'une composante. C'est pourquoi il m'est arrivé, j'espère vous l'avoir fait entendre, de suggérer au moins une fois explicitement de critiquer la suffisance, ce que j'ai appelé la suffisance sociale, et d'autres fois, plus indirectement, il m'est arrivé de suggérer de penser le social comme un pôle, et seulement un pôle de l'existence des humains. Donc ça reprendrait l'ensemble, si vous voulez, des trois notions avec lesquelles je réfléchis depuis à haute voix depuis l'année dernière, privé, public, social. Hein, trois pôles, voilà. Aucun des trois, et en particulier pas le social, n'étant le pôle par excellence, si vous voulez, de l'existence humaine. Alors je pense que dire une chose comme ça, c'est prendre un parti qui n'est pas le parti de l'anthropologie, en tout cas le parti majeur de l'anthropologie, y compris celle de le roi Gouhan, qui aura pourtant été pour ma génération une source importante de connaissances et de références. Cependant, que le social ne soit pas réellement suffisant, c'est-à-dire qu'on ne parvienne pas à expliquer tous les éléments qui composent une existence humaine en disant qu'ils sont sociaux, que le social ne soit pas réellement suffisant, n'empêche pas, première hypothèse ce soir, qu'il puisse être pensé comme tel avec suffisance. Ça serait en gros, même si il ne suffit pas d'invoquer la dimension sociale de l'existence pour expliquer toute l'existence humaine, ça n'empêche pas qu'il existe des théories qui posent que l'être humain est essentiellement social. Et ça serait le fond de l'anthropologie. Première hypothèse, que le social ne soit pas réellement suffisant n'empêche pas qu'il puisse être pensé comme tel avec suffisance. Et ça n'empêche pas non plus, deuxième hypothèse, que s'active dans le social, et alors nous ne sommes plus sur le terrain d'une conception globale, structurelle ou systémique de la société, mais sur celui, je vais y revenir, d'une histoire à écrire ou à réécrire, donc que le social ne soit pas réellement suffisant n'empêche pas, deuxième hypothèse, que s'active dans ce qu'on appelle, dans ce que j'appelle le social, des forces, ou pour reprendre encore une fois, à leur roi Gouhan, son mot, des tendances qui visent à la suffisance. C'est peut-être une tendance de la société qui n'est pas réellement suffisante pour expliquer, pour donner les raisons, pour être le lieu des raisons de l'existence humaine. Ça n'empêche pas que la société elle-même tende à se penser comme telle, et ou qu'il existe des forces en son sein, des tendances qui visent à la faire considérer comme telle, comme suffisante. Hein, il suffirait d'être socialisé pour être vraiment humain. Alors, je vais reprendre ces deux hypothèses qui, en fait, se combinent. Celle d'une société qui est pensée comme suffisante et celle d'une société qui se donne comme telle. Donc, première hypothèse, cette hypothèse d'une société qui est pensée avec suffisance, elle suppose, cette hypothèse, l'humain comme radicalement intéressé par le social. Il n'est ou ne pourrait être humain, cet être, qu'investi dans, que parmi le social. Alors, je joue sur le mot, une fois de plus, inter-essé. La langue m'autorise ce jeu de mots pas du tout familier, hein. Être parmi, être au milieu, inter. Voilà. Donc, il y a une hypothèse, c'est la première que j'examine, qui suppose l'humain comme radicalement inter-essé par le social, c'est-à-dire il n'est humain que investi dans, présent parmi, intéressé, ayant de l'intéressement pour le social. Nombre de sciences humaines poussent en faveur de cette supposition, qui implique tout de même, je voudrais y faire penser, quelque chose comme une dérive dans la compréhension anthropologique du phénomène humain de la compréhension de l'utile. Alors, ça va être l'un des motifs de ce soir, avec des transitions ténues, il ne faut pas les rater. Donc là, il y en a une, je vous la signale. C'est-à-dire, je crois que, et je vais essayer de vous parler de ça, que la thèse anthropologique qui fait de la société le lieu essentiel de la vie sociale, l'élément essentiel de l'existence humaine, cette thèse anthropologique, l'anthropologie, ça ne date pas de la nuit des temps, ça c'est arrivé à un moment donné dans l'histoire des idées. Donc la thèse anthropologique qui fait de la dimension sociale de l'existence l'essentiel, qui ferait de la dimension sociale de l'existence l'essentiel de l'existence, cette thèse, elle se sera énoncée, je vais essayer de vous le montrer, ou le suggérer en tout cas, elle se sera énoncée en même temps que ce que j'appelle à l'instant une dérive dans la compréhension de l'utile. Alors, il m'est arrivé, sinon de tout à fait montrer, du moins de tenter de le faire, comment cette dérive dans la compréhension de l'utile, de la notion d'utilité, pouvait avoir affecté le propos de Marcel Mauss, qui est quand même un grand nom, et qui est l'une des sources de la pensée anthropologique. Et Marcel Mauss, qui fut au demeurant, sachez-le, le directeur de thèse de Leroy Morand. Donc, il m'est arrivé de montrer, ou d'essayer de montrer, que une dérive, une sorte de dérive dans la compréhension de l'utile, affectait la théorie anthropologique de Marcel Mauss lorsque, par exemple, Mauss étudie les pratiques du don. L'article en question, puisque références me sont demandées, s'intitule Le revers du mot et il a été publié dans un ouvrage collectif qui s'intitule Les valeurs esthétiques du mot, direction Jacinto Lagera et Agnès Lontrade. Donc j'ai fait un travail dans ce livre-là qui est un travail critique à l'encontre de Marcel Mauss, de la compréhension anthropologique du don, hein, qu'en fait Mauss montre qu'il n'y a pas de don désintéressé. Voilà. Il n'y a de don que s'il y a un contre-don. Et je ne pense pas que Mauss puisse poser cette thèse-là, autrement dit que le don est un élément social, il entretient la société, puisque si je donne quelque chose, c'est en attendant qu'il y ait un contre-don, donc d'une certaine manière, quelque chose me revienne, hein, donc c'est un intérêt, c'est un intéressement. Et au fond, il n'y a pas de don qui serait absolument généreux. Alors, c'est une thèse anthropologique majeure qui fait tenir la société à une certaine compréhension de la notion d'intérêt, et on peut le montrer dans le texte. Je vous renvoie au détail de l'analyse dans mon article. Il me semble qu'on peut montrer que cette thèse ne peut pas s'installer dans la pensée anthropologique et dans celle de Marcel Mauss en particulier, sans impliquer une certaine façon de comprendre l'intérêt, si vous voulez, mais aussi, en deçà même de la notion d'intérêt, la notion d'utilité. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme, je ne vais pas dire une mécompréhension, mais une dérive de la compréhension de la notion d'utilité qui est fondatrice de l'anthropologie et qui est, par voie de conséquence, fondatrice de l'idée selon laquelle le social serait l'élément essentiel de l'existence humaine. Non pas un pôle de cette existence, mais son motif majeur. Donc Mauss, pour revenir à lui, nomme plusieurs fois, c'est un fait textuel, l'utile dans son essai sur le don, mais il n'interroge pas cette notion. Il nomme l'utile comme si la définition de l'utile ou la compréhension de l'utile était évidente, ne pouvait pas être matière à interrogation. Que le mot ait la même aire de signification que l'intérêt, et que l'intérêt soit moteur dans la nature des pratiques humaines, cela ne semble pas à Mauss, et je dirais par extension peut-être à l'anthropologie, discutable. Il est pourtant, c'est ce que j'essaye de montrer dans mon article, Mauss, à ce moment-là, sur ce point, tributaire de tout un mouvement d'écriture, à situer, à mon avis, du côté des Lumières, et s'il faut un collectif d'auteurs de référence, du côté de l'encyclopédie, mouvement d'écriture qui a peu à peu, par petites touches, tiré l'utile du côté de l'avantageux. Alors, ça se résume, je le montre, c'est très facile à montrer, il y a qu'à citer. Hein. Dans l'encyclopédie, c'est les trois mots vont ensemble, utile, intérêt, avantage. Il y a un très court texte de Diderot qui justifie la jointure de ces trois notions. Mais est-ce que c'est si évident que ça qu'il n'y a d'utilité qu'avantageuse ou intéressante, etc. C'est évident dans les usages de ces mots depuis le siècle des Lumières, mais avant. Chacun n'agit-il pourtant jamais qu'en raison de ceux qui l'avantagent? Est-ce que l'intérêt de l'humanité est nécessairement dans ceux qui l'avantagent? Est-ce que nous résidons dans l'avantageux? Voilà. Pour moi, ce n'est pas évident. Peut-être y a-t-il des gestes humains essentiels qui ont une utilité et qui ne sont pas avantageux et qui ne sont pas, dans une certaine mesure, intéressants. Reste, certes, dans le propos de Marcel Mauss, une conception plus ancienne de l'importance pour les humains du non nécessaire, du contingent, du possible, bref, de ce qui peut être sans être inévitablement et que les anciens précisément appelaient utile. Ce non nécessaire, ce contingent, ce possible n'affecte ou n'affecterait que les allures d'une puissance structurelle réglant plus radicalement ou plus universellement les comportements. L'utile, tel que l'entend Mauss dans son texte, ayant de fait cessé d'être entendu comme il avait pu l'être autrefois, il y a longtemps, c'est en même temps que cette réinterprétation de l'utile, toute une conception de la variabilité et de l'historicité des principes de la vie sociale qui se ferme à la compréhension. Avant le remaniement de la compréhension de l'utile et l'enchaînement de l'utile à l'intérêt et à l'avantage, l'utile, c'est juste, si j'ose dire, ce qui peut être, c'est-à-dire ce qui peut aussi ne pas être, c'est-à-dire ce qui n'a pas de nécessité, ce qui par conséquent n'est pas lié à de l'inévitable. C'est cette compréhension-là de l'utile. L'utile, c'est seulement ce qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire ce dont on peut se passer, ce qui n'a rien d'inévitable, hein, que nous avons perdu de vue, nous les successeurs de l'encyclopédie, nous avons perdu de vue cette compréhension de l'utile et nous l'avons liée au contraire à quelque chose que nous pensons comme inévitable, à savoir que les humains sont tenus pour régir leur comportement dans le monde par des intérêts. Voilà. Alors que de l'utile, en tant qu'il n'est pas nécessaire, si on admet cette compréhension de l'utile, on peut se désintéresser. Et peut-être que les humains sont ces êtres qui, comment dire, n'ont pas cessé de mettre au monde des utilités pour plus tard s'en désintéresser, pour plus tard les abandonner. Et c'est ça qu'il faudrait comprendre, selon moi. C'est pourquoi je pense qu'il faut faire une histoire des abandons d'utilité par les humains. Mais cette histoire, on ne peut pas la faire si on a le point de vue anthropologique hérité des Lumières, selon laquelle les hommes, comment dire, sont inévitablement liés à des intérêts. Comment est-ce qu'on abandonnerait son propre intérêt? Voilà. On ne puisse pas se passer de quelque chose. Donc finalement, l'examen de l'hypothèse que j'appelais 1 tout à l'heure implique la seconde, celle d'une histoire à écrire ou à réécrire qui examinerait moins les convergences que les divergences entre les régimes sociaux. Et c'est, j'ai le sentiment d'être très très confus, mais enfin c'est ça que je voudrais... C'est sur ça que je voudrais polariser la réflexion pour conclure cette année de séminaire. Pour le dire peut-être plus simplement, je vous aurais proposé une réflexion qui n'est pas anthropologique, parce que je pense que l'anthropologie, c'est une science ou c'est un savoir qui essaye d'expliciter en quoi toutes les sociétés convergent, c'est-à-dire qui cherche à expliciter les universaux sociaux, voilà. Alors que finalement, je me rends compte, après vous avoir fait subir toutes ces séances de séminaire, que ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les convergences sociales, c'est-à-dire l'universel social, mais ce qui m'intéresse, c'est au contraire les divergences. Ce qui m'intéresse, c'est les moments où on peut se passer de quelque chose dont on ne pensait pas pouvoir se passer quelque temps auparavant. Quelque chose comme des abandons. Donc je vais méditer là-dessus ce soir. Donc, ce qui m'intéresse, ça serait d'examiner moins les convergences que les divergences entre les régimes sociaux. Ce qui m'intéresse, c'est de poser qu'il y a quelques raisons à séparer le nécessaire, le vraiment nécessaire, de ce qui, sans l'être réellement, s'impose à certains moments comme tel. Il y va d'une conception de ce qui nous oblige, et ce qui nous oblige, ça n'est jamais absolument inévitable. Donc je voudrais essayer de dire ça peut-être un peu contre l'anthropologie. Il n'y a peut-être pas d'universel social, il y a peut-être plutôt des obligations sociales. La société nous oblige, mais ce qui nous oblige n'est pas absolument inévitable. L'humanité peut, autrement dit, sortir des obligations sociales que par ailleurs elle a. Une pratique sociale peut nous obliger et ou, si vous voulez, nous pouvons être obligés à une pratique sociale. Cela ne signifie pas que cette obligation, aussi durable soit-elle, soit indépassable. L'histoire se fait précisément de ce qu'il y a, tôt ou tard, dépassement d'obligation. Donc je pense à l'inverse, si vous voulez, je parlais de Marcel Mauss dans l'essai sur le don. Je pense que le don, Marcel Mauss le pense, essaye de montrer qu'il n'est pensable qu'à la condition finalement d'être indépassable. C'est pas un mot qu'il utilise, mais ce serait une structure sociale radicale, indépassable, hein, qui fait que toute société est prise dans une logique de don et de contre-don. C'est-à-dire finalement dans une économie d'échange qui fait qu'il n'y a pas de don généreux absolument, mais seulement apparemment. Voilà. Contre ça, il me semble, pas forcément avec raison, mais c'est comme ça que je pense, je constate de fait, au bout du compte, il me semble que je prends un parti différent, que j'aurais pris un parti différent, ou je vous aurais fait prendre un parti différent dans la mesure où vous m'auriez suivi, vous me suivriez, voilà, qui consiste à poser que il y a peut-être moins de structure sociale qu'on ne peut le penser du côté de l'anthropologie, et davantage d'histoire des sociétés, histoire voulant dire que tôt ou tard, il y a des dépassements de ce qui est vécu à certains moments comme des obligations sociales. Et encore une fois, être obligé à quelque chose ne veut pas dire que la chose est indépassable. Dans les moments de dépassement des obligations sociales, des apparences d'inévitabilité des comportements sociaux, dans les moments historiques de dépassement des obligations sociales, que je suggère au fond de chercher à étudier et à relever tout particulièrement, hein, c'est-à-dire si je pouvais encore diriger des recherches, j'aimerais bien orienter ceux ou celles qui travaillaient avec moi dans ce sens-là. Ça serait bien de chercher à étudier et à relever les moments où des obligations sociales se trouvent dépassées, mises de côté. Dans ces moments historiques de dépassement d'obligations que je cherche à étudier ou à relever tout particulièrement, c'est précisément l'apparence d'inévitabilité, c'est le caractère apparemment obligatoire des mœurs sociales en vigueur qui tombe. Dans les moments historiques, qu'est-ce qu'un moment historique? Voilà. Un moment historique, c'est un moment où tombe l'apparence d'inévitabilité des obligations sociales. Ce à quoi nous nous tenions, ce qui semblait nous obliger, voilà, c'est un moment historique, ça tombe. Donc, ces moments de tomber des obligations sociales m'intéressent, et si j'étais directeur de recherche, je suggérerais qu'on les étudie tout particulièrement. Il me semble que cette direction de recherche a quelque chose qui ne va pas avec les données fondamentales de ce qu'on appelle l'anthropologie. Alors, pour traiter aussi rapidement que possible de toute cette affaire, sans en faire la complète généalogie, revenons, si vous voulez, un instant à ce avec quoi j'essaye de m'expliquer, dans mon explication, disons, avec l'anthropologie, ce que le mot utile peut signifier. Revenons un instant, pour ce soir, sur ce que le mot d'origine latine utile, avec toutes ses connotations du côté de l'outil dont on se sert, a traduit du grec quand il s'est, peu à peu imposé dans la langue de la pensée. Les spécialistes ne doutent, traducteurs patentés, ne doutent généralement ni du dictionnaire, ni de la philologie qui constitue la base de leur savoir, et qui sont pourtant l'un et l'autre, le dictionnaire comme la philologie, datés, le plus souvent, ils sont postérieurs au temps des Lumières. Et il s'est passé un phénomène de traduction qui est qu'on a fini par rendre par le mot utile l'expression qui se trouve chez Aristote et qu'Aristote opposait au nuisible, en grec, je vous l'ai dit, to sumpheron. Il est arrivé ce phénomène langagier que les gens savants, munis de gros dictionnaires et de toute une philologie, ont cru pouvoir traduire par utile ce que la vieille langue grecque, bien antérieure, la langue d'Aristote en tout cas, bien antérieure au temps de l'Encyclopédie et des Lumières, avait nommé to sumpheron, je vais traduire à ma façon, et qui est explicitement dans le texte opposé au nuisible. Hein, c'est-à-dire, au fond, si je me retourne vers le texte d'Aristote, je suis en train de chercher qu'est-ce qui ne nuit pas à l'existence humaine. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas nuisible? To sumpheron. Réponse du grec. Qu'on a traduit, au bout d'un certain temps, pas n'importe quand dans l'histoire, par l'utile. Qu'est-ce qui convient à l'existence humaine? De quoi vit un humain? D'utilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. S'oppose à son existence nuisible, va avec son existence l'utile, to sumpheron. La traduction plus littérale de ce to sumpheron, ça serait convenant, ce qui vient avec. Dans l'article à propos de Mauss que j'évoquais tout à l'heure, j'explique tout ça, je m'explique avec tout ça. To sumpheron, convenant, ce qui vient avec, sum. Féron, porté, féron, sum avec. Ce qui vient avec, ce qui est porté avec, voire ce qui accompagne. Sommes-nous prêts à admettre, en entendant la traduction que je viens de vous dire et qui est plus ajustée à l'expression initiale de la pensée, que l'utile est d'abord, avant même d'être défini comme ce qui sert, l'utile est d'abord ou aura d'abord été considéré comme un accompagnement de l'humanité. Il est l'utile en premier lieu ce avec quoi l'humanité peut cheminer, c'est-à-dire aussi bien peut ne pas cheminer. Nous retrouverons cette possibilité si nous écoutons bien ce que nous disons lorsque nous affirmons qu'est utile ce qui peut servir. Car ce qui peut servir est aussi bien et par le fait même ce qui peut ne pas servir. Ce qui n'est pas obligatoirement dans ni pour le service, Ce avec quoi donc on peut aller, mais aussi ne pas aller, quelque chose comme un accompagnement ou un équipement dont on peut se passer. Alors c'est là-dessus que j'insiste, que je voudrais insister. La première idée de l'utilité, l'idée la plus, la première, antérieure, si vous voulez, hein, la première idée de l'utilité, ce n'est pas le profit ni l'avantage. Et un objet utile n'est pas de manière nécessaire parce qu'il n'est pas tout le temps ni interminablement un objet intéressant. Un objet utile n'est pas de manière nécessaire. Il n'y a pas d'objet utile qui soit jamais nécessaire. Et c'est ainsi parce que il n'y a pas d'objet utile qui soit tout le temps ni interminablement un objet intéressant pour l'humanité. Que l'humanité ne puisse pas se passer d'équipements utiles à la vie et à son existence, c'est un fait, n'implique pas qu'un équipement particulier, quel qu'il soit, puisse jamais transcender l'histoire. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de situation équipée qui soit au fond indispensable à l'existence humaine. Et par extension, je vais essayer de suggérer, je pense que je ne vais pas réussir à le montrer, mais au moins suggérer, il n'y a pas de mode d'existence sociale qui puisse jamais transcender l'histoire. Voilà. Il n'y a pas de société dont l'organisation soit nécessaire. Il n'y a de société qu'utile. Il n'y a de vie sociale qu'utile, ce qui veut dire il n'y a de mode de vie sociaux que dépassable. Si tout mon raisonnement a bien été formulé et si j'ai réussi à vous l'exposer à peu près clairement. Je reprends, si vous voulez. Que l'humanité ne puisse jamais se passer d'être équipée dans sa vie, que l'humanité ne puisse pas se passer de vivre avec des utilités, cela n'implique pas qu'un équipement particulier, quel qu'il soit, puisse jamais transcender l'histoire. L'existence humaine n'est donc jamais immergée, pour reprendre un mot à la mode, dans ce qu'elle utilise. L'humanité est humanité parce qu'elle n'est jamais immergée, parce qu'elle n'aura jamais été immergée dans les utilités. En ce sens, je dirais, l'humanité n'y est pas, ni dans les utilités, ni dans la société, pour autant que la société est le lieu où se déploient les utilités, les équipements, l'équipement de la vie. Ou si vous préférez, bien que la vie humaine tienne au fait général d'être équipée, elle ne tient pas radicalement, jamais, à tel ou tel équipement concret, un temps utile pour elle. Par conséquent, l'humanité, l'existence humaine, abandonne régulièrement ce qui, pendant un moment, l'accompagne et lui sert. Et je propose, enfin, je pense que foncièrement, je ne dis pas que j'ai raison, voilà. Mais moi, je n'arrive pas à penser autrement que comme je vais vous dire. Je pense que foncièrement, il n'y a rien dans nos existences qui ne soit pour nous des accompagnements dont, au fond, nous pouvons et nous pourrons et nous nous passerons, effectivement, nous ou nos descendants. Hein. C'est-à-dire, l'humanité, ça n'aura été que ça, un mode d'existence qui se passe régulièrement de ses propres équipements. J'en tire comme conclusion qu'il n'y a pas de société nécessaire. Il n'y a pas d'organisation sociale nécessaire. Alors, c'est vers cette possibilité de l'abandon régulier des utilités qui en fait, c'est presque un pléonasme. Abandonner régulièrement une utilité, ça veut dire avoir le sens vraiment de l'utile. C'est vers cette possibilité de l'abandon, en tout cas, que je voudrais tourner le plus que je peux l'attention. Cette possibilité de l'abandon n'est pensable elle-même qu'à supposer une insatisfaction, une insuffisance, toujours au moins un peu résiduelle. Nous ne pouvons changer de vie, finalement, passer d'un mode d'existence à un autre, d'une société à une autre, d'un régime d'utilité à un autre, que parce que, au fond, nous sommes des êtres insatisfaits, existant dans une insuffisance toujours au moins résiduelle. Ou, selon une expression que j'aurais tirée de ma lecture de Rousseau, penseur d'ailleurs en tension avec le siècle des Lumières, la possibilité de l'abandon n'est elle-même possible qu'à supposer un être, non pas essentiellement dans l'intérêt, mais essentiellement dans le besoin, dans l'insatisfaction, dans le manque. Cet être dans le besoin, je pense que c'est une thèse fondamentale de Rousseau, hein, qu'est-ce qu'un être humain? C'est un être dans le besoin. Et perdre de vue cette définition, c'est perdre de vue quelque chose d'essentiel à l'humanité, en tout cas si je suis la pente de la philosophie de Rousseau. L'être dans le besoin, l'être humain, pour Rousseau, n'est jamais dans un état de perfection, mais toujours dans ce que Rousseau nommait une perfectibilité. La perfectibilité, ça veut dire je peux toujours être dans une autre situation que la situation dans laquelle je me trouve. Je ne suis pas satisfait, il n'y en a pas assez de fait, si vous voulez, je ne suis pas satisfait jamais par la situation dans laquelle je me trouve. Il n'y a pas d'objet parfait pour m'équiper dans la vie, il n'y a que des objets utiles. Au sens que j'ai essayé de dire depuis quelques minutes. Il n'y a donc, ou il n'y aurait pas, en tout cas si je suis le point de vue de Rousseau, d'objet ni de situation qui puisse combler un être humain, sauf à penser judicieux qu'il en vienne, cet être humain, à nier ou à surpasser sa condition, sauf donc à aller du côté d'une surhumanité ou en direction du surhumain. Il n'y a pas de sens à se mettre en quête de l'utilité parfaite, c'est une contradiction dans les termes. Alors tout cela ne s'inscrit sûrement pas au registre du plus couramment admis. Je suis en train en fait d'essayer de dire deux choses. La première, c'est qu'il n'y a rien de concret qui puisse être vraiment donné comme indispensable ou inévitable. Il y a bien sûr des choses qui peuvent nous être données apparemment comme telles, inévitables, etc. C'est même le plus courant de la vie quotidienne, c'est de nous dire « je ne peux pas me passer, par exemple, d'un téléphone portable, je ne peux pas me passer, etc. » Ça, c'est l'écume, hein, de la vie humaine. Mais profondément, si on réfléchit, donc c'est la première chose que j'essaye de dire, il n'y a rien de concret, qui puisse être vraiment donné comme indispensable ou inévitable. Il n'y a rien dont on ne puisse se passer. Alors je dis bien rien de concret, car par abstraction, mais par abstraction seulement, on peut soutenir la thèse inverse, et poser par exemple qu'aucun humain ne saurait se passer de manger. Alors ça, c'est vrai, vous pouvez dire, mais vous avez tort, il y a des choses dont l'humanité ne peut pas se passer, par exemple manger. Oui, ben cette affirmation est une affirmation abstraite. Donc abstraitement, c'est vrai qu'il y a on peut dire, il y a ceci dont l'humanité ne peut pas se passer. Mais concrètement, il y a bien des nourritures possibles que l'humanité réelle, concrète, évite, dont elle se passe, qui sont d'un autre monde ou d'un autre temps, et il n'y a de fait que des nourritures conditionnellement cuites, présentées et servies. Donc abstraitement, il y a des nécessités existentielles. Concrètement, il n'y en a pas. Il faut manger, mais on mange toujours quelque chose de particulier. Et on ne mange pas aujourd'hui comme autrefois. On ne mange pas ici comme là-bas. Les nourritures sont cuites, arrangées, combinées, présentées, servies d'une manière ou d'une autre, etc. Et du concret, de l'effectivité concrète de l'existence humaine, il ne ressort aucune nécessité. Il n'y a là que des utilités, c'est-à-dire des productions et des situations dont on peut se passer. On pourrait vivre tout simplement ailleurs et autrement. Alors ça, c'est la première chose que j'essaye de soutenir ce soir, enfin pas seulement ce soir, mais notamment ce soir. Et la deuxième, c'est que s'il y a de l'indispensable ou de l'inévitable, c'est relativement à des conditions qui n'ont elles-mêmes pas de nécessité. Autrement dit, s'il y a de l'indispensable et de l'inévitable, c'est, comment dire, en raison, je pourrais presque dire d'un conditionnement, hein, d'une façon de présenter les choses qui ne correspond pas à la nature profonde des choses, pour qui ne confond pas cause et condition. Ce que j'essaye de dire à l'instant peut se dire plus succinctement, il n'y a que des conditions à l'outillage, à l'équipement de la vie humaine dans tous ses aspects, privés, publics, sociaux. Il y a des conditions de possibilité de tout ça, il n'y a pas de cause à tout ça. Nous ne sommes pas, comment dire, fatalement liés à des modes d'existence. Pour une part, jusqu'à un certain point, au long, en tout cas, d'une très grande période d'une évolution qui a peut-être depuis peu pris un autre cours, c'est en tout cas ce qu'envisageait Laurent Mourant quand il parlait à la fin de son travail du caractère surorganique de la vie moderne. Donc, pour une part, jusqu'à un certain point, au long, en tout cas, d'une très grande période d'une évolution qui a peut-être un peu changé de cours, c'est conditions que je viens de dire, les conditions à l'outillage, à l'équipement de la vie humaine, auront été morphologiques. C'est la thèse de Leroy Mourant, hein. C'est-à-dire que tout l'outillage de l'humanité se déduit pour commencer de la forme même du corps. Hein, un être monté sur des pieds, ayant une mâchoire à ossature légère, petite musculation qui libère la possibilité d'une grande boîte crânienne dans laquelle vient loger une troisième circonvolution de cerveau, laquelle permet le langage, beaucoup de choses comme ça. Nous pouvons, de notre côté, situer les conditions de l'outillage, de l'équipement de la vie humaine sur trois autres registres. Hein. Donc, il faut expliquer les conditions dans lesquelles nous sommes outillés, équipés, etc. Il y aurait des conditions morphologiques, voir le travail de Leroy Mourant. Il y aurait aussi des conditions techniques, hein, qui suppléent d'une certaine manière aux conditions morphologiques, qui impliquent des capacités de production à certains égards déliées de l'attachement de mon corps. Hein, c'est ce que demande toute l'anthropologie justement de Laurent Mourant. Des conditions morphologiques, on passe aux conditions techniques. Mais il y a aussi des conditions économiques. Et si on veut suivre la leçon du design historique sur lequel je suis intervenu je ne sais plus quand c'était, en novembre ou décembre pour l'école d'art et design de Toulouse, des conditions formelles, conditions dont la prise en compte permet peut-être justement de davantage proposer au sujet que les autres conditions, la morphologique, la technique, l'économique, de quoi vaquer dans l'existence. Hein. Prendre en compte les possibilités de formation des objets, de donner des formes aux objets qui par ailleurs équipent nos existences, c'est peut-être là que se tient la possibilité justement de vaquer, de donner à l'existant humain la possibilité d'être dans une situation de vacances quand il est par ailleurs pris, plus ou moins pris dans ce qu'il ressent ou ce qu'il éprouve comme des obligations sociales. C'est le jeu de tout cet ensemble de conditions c'est le fait qu'elles jouent entre elles qui fait vivre la vie humaine. Je pense que la vie humaine vit du fait de n'être pas conditionnée d'une seule manière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause à ce qui nous arrive, il y a un jeu de conditions morphologiques, techniques, économiques, formelles, etc. Et c'est le fait que toutes ces conditions sont des conditions et pas des causes, c'est le fait qu'elles jouent ensemble, c'est le fait qu'il y a du jeu entre elles qui fait vivre la vie humaine ou qui donne à cette vie sa vivacité et qui fait qu'elle ne se reproduit pas seulement. Nous ne sommes pas seulement dans la reproduction incessante de nos propres conditions d'existence. Alors, j'en ai presque terminé avec cette séance complexe. Enfin, vous me direz, j'essaierai d'être plus clair après. Suite à une remarque, Pablo, à la remarque que vous m'avez adressée la semaine dernière, suite à des lectures de textes de Foucault que m'a proposé Adrien il y a plusieurs semaines de ça, notamment un texte sur la gouvernementalité dont nous avions parlé, Adrien, entre nous au téléphone. Voilà. Suite donc à votre remarque, Pablo, la semaine dernière, suite à ces textes de Foucault qu'Adrien m'a fait lire, je vais conclure désormais en évoquant la place du pouvoir dans toute cette affaire, dans tout ce que j'aurais essayé de dire ce soir, qui est dans mon esprit une sorte de conclusion des principes théoriques du séminaire de cette année. Je propose de définir le pouvoir comme un blocage au moins relatif du jeu des conditions existentielles. Donc, je dis qu'il y a des conditions à l'existence humaine, qu'aucune de ces conditions, si l'existence demeure une existence humaine, n'est fondée à s'imposer, à dominer, au fond, finalement. Il faut que ça joue. Et c'est parce que ça joue que l'humanité vit humainement. Voilà. Et le pouvoir, en revanche, si on me demandait de le définir, je dirais, réflexion faite, que je... Et parce que Pablo, vous m'avez obligé à penser que je n'étais pas Foucaldien la semaine dernière. Voilà. Je dirais que le pouvoir, si je devais le définir, ce serait comme ceci. Il y a pouvoir en tant qu'il y a un blocage au moins relatif du jeu des conditions existentielles dont je viens d'essayer de parler. Pour des raisons qu'il me faudrait expliciter et peut-être même d'abord moi-même chercher pour moi-même, j'ai tendance à penser, et ce que je vais dire est sans doute plus marxiste que foucaldien, j'ai tendance à penser que le motif du blocage, ce que je viens d'appeler le blocage des conditions existentielles, le motif du blocage se trouve dans la façon de systématiser la condition économique. C'est-à-dire, moi j'aurais tendance... Bon, il y a pouvoir lorsque, au lieu de ce qui conditionne multiplement l'existence humaine, c'est-à-dire qui fait qu'elle est possible variablement, qu'elle est historique et pas systématique, etc. Il y a pouvoir lorsque ce qui est fondé à jouer, qui est du jeu dans tout ça, tend à se bloquer, donc il y a moins de jeu. Le pouvoir, c'est un blocage du jeu des conditions existentielles. Voilà. Et j'ai tendance à penser, donc ça c'est pas Foucault qui m'a fait penser, ça serait plutôt Marx, que ça se bloque parce que l'un des régimes de conditions au moins de l'existence humaine, le régime économique, la condition économique, se systématise. Et je pense ça notamment parce que, ou aussi plutôt parce que, après lecture d'Agamben et de quelques textes plus classiques, j'élargis le champ de compréhension de l'économie à des productions qui ne sont pas économiques au seul sens des modernes. Systématiser la condition économique, c'est ne pas la laisser jouer, c'est la penser comme une disposition rigoureuse, c'est donc excéder sa dimension de condition, et c'est finalement la tenir en puissance d'assignation des autres conditions. Je pense qu'on a beaucoup tendance à penser comme ça aujourd'hui que, justement, l'économie, c'est l'essentiel. Voilà. Qu'il faut tout soumettre à la possibilité économique. Voilà. Comme si les autres possibilités, avec leur régime de conditions spécifiques, ne comptaient pas pour nous ou ne comptaient pas de manière essentielle. Il y a quelque chose dans la compréhension ordinaire de l'économie aujourd'hui qui excède le caractère de seulement condition de l'économie pour en faire quelque chose qui s'impose ou qui impose sa systématicité ou qui tend à imposer sa systématicité. Que ce soit possible qu'il y ait là aussi une sorte de donne de l'expérience humaine, c'est-à-dire qu'on puisse être concerné par quelque chose qui nous bloque, par la systématisation d'une condition, en l'occurrence la condition économique, que ça puisse nous arriver, c'est là quelque chose dont il faudrait que je m'occupe davantage, que je n'ai pas expliqué, que je m'explique peut-être d'ailleurs pas suffisamment. Mais donc, en tout cas, on peut faire, d'une certaine manière, au moins le constat. Parvenir à comprendre comment nous pouvons trouver judicieux d'économiser et la technicité et les formes de nos équipements existentiels, c'est-à-dire comment nous pouvons trouver judicieux de soumettre notre propre représentation de l'existence à la condition économique, comment nous pouvons trouver ça judicieux, c'est ce qui reste pour moi à expliquer ou à penser. Parvenir à cette explication ou à cette pensée, ce ne serait pas seulement, comme l'a fait à l'évidence Foucault, montrer comment le pouvoir bouge et comment il déplace les points et les modes d'application des blocages qu'il opère. Ce serait encore, comme peut-être l'a aussi fait Foucault, mais de façon plus secrète, ou en tout cas moins repérée par ses commentateurs, c'est-à-dire parvenir à s'expliquer, à nous expliquer comment nous pouvons nous laisser dominer par une des conditions de nos existences, ça serait pas seulement donc montrer comment le pouvoir bouge et comment il déplace les points et les modes d'application des blocages qu'il opère, ce serait encore, je ne trouve plus la suite de ma phrase, penser sinon la non-nécessité du pouvoir, du moins le caractère non impérieux de ces manifestations. Je pense qu'il y a quelque chose qui reste là à penser, pas simplement, parce que ça Foucault l'a sûrement fait, comment le pouvoir se déplace, mais comment il n'y a pas de nécessité au pouvoir, il n'y a pas de caractère absolument impérieux des manifestations du pouvoir. Au fond, ça serait au fond, très paradoxalement, dire le pouvoir n'est éventuellement que de l'ordre de l'utilité, c'est-à-dire de ce qui peut lui-même passer. Qu'on puisse passer le pouvoir. Donc, il s'agirait de penser non pas le caractère inévitable du pouvoir dans les sociétés humaines, mais le caractère éventuellement utile du pouvoir dans les sociétés humaines. En disant tout cela, j'envisage moins de réfléchir au remplacement du pouvoir qu'aux occasions et aux circonstances du retrait de tel ou tel de ses modes de présence. L'accent n'est pas le même. Il s'agirait moins pour moi de chercher comment des phases discursives, des opérations, des objets, voire des œuvres produisent ou renouvellent des dispositions. Ça, je crois que c'est ce que fait Foucault. Il s'agirait moins de chercher comment des phases discursives, des opérations, des objets, voire des œuvres produisent ou renouvellent des dispositions, des économies de pouvoir, etc., que de se demander si tel ou tel opérateur décompose une assignation et s'il libère ce faisant ce que j'ai nommé en commençant ce soir une vacance, c'est-à-dire un sentiment et ou un étonnement. Je pense qu'il faut chercher ça. Comment ce que nous faisons, ce que nous mettons au monde, non pas finalement renouvelle les dispositions au pouvoir, mais décompose une assignation et libère une vacance, un sentiment, un étonnement. Les cas de réponse peuvent être rares, il se peut que ça soit rare, il est rare que les humains posent dans le monde, mènent dans le monde des opérations qui les libèrent. Il est rare que les humains posent dans le monde des objets qui les étonnent, qui leur donnent le sentiment d'exister, d'être vif, vivace, etc. C'est rare, mais ça n'est pas impossible. Et donc, mon idée serait de suggérer de chercher le plus qu'on peut dans quel cas ça se passe, ça que je viens d'appeler une libération. Voilà. Chercher non pas comment le pouvoir s'est déplacé de moment historique en moment historique, ça serait, disons, ce que Foucault a fait très bien, voilà. Mais de chercher des cas, des occasions, qui sont peut-être seulement des moments occasionnels, des moments, mais quand même des moments, des occasions, des cas où quelque chose d'un pouvoir se décompose, quelque chose d'un blocage se décompose, et comment ça rejoue, ça se met à jouer de nouveau dans les conditions d'existence de l'humanité. Que les cas que j'essaye d'évoquer à l'instant soient rares, n'empêche pas qu'ils existent, et que la question de leur possibilité et de leur existence doivent au moins être posées et ouvertes à une possibilité de réponse positive. Je vais ajouter, et j'en aurai fini avec ça, que si la décomposition des assignations du pouvoir, etc., des grandes lignes de pouvoir, des systématisations, etc., si la décomposition dont je viens d'essayer de vous parler est subreptice, si ce n'est pas une soustraction produisant un résultat matériel, si c'est pour ainsi dire seulement ce qu'évoque Foucault avec sa notion d'hétérotopie, il manque quelque chose, à mon sens, à l'affranchissement. Je cherche à attirer l'attention sur les moments où le pouvoir se décompose, et ces moments, je pense que ce ne sont pas, je cherche à les penser comme étant pas seulement des moments dans lesquels on se soustrait mentalement, si vous voulez. Mais il y a bien quelque chose qui affranchit l'être qui passe par là. Je suggérerais plutôt de chercher, avec Jacques Rancière par exemple, c'est la lecture d'un texte que m'a adressé Cédric Mazet, qui est là et qui est d'ailleurs publié ou en voie de bon cours de publication, qui m'a ramené fort heureusement du côté de Jacques Rancière. Je chercherais plutôt, avec Jacques Rancière par exemple, les cas et les conditions d'une émancipation qui ne se réalise pas seulement dans un mode de la fréquentation, par exemple ce que fait Foucault dans les hétérotopies, c'est-à-dire il montre qu'il y a un certain nombre d'espaces qu'on peut fréquenter, comment dire, en se mettant de côté par rapport à la logique de pouvoir de ces espaces, par exemple le navire en est un. Voilà. Mais il me semble qu'il faudrait chercher à établir que les cas et des conditions d'émancipation se réalisent bien en quelque chose et du fait de quelque chose. Que les cas, les conditions d'émancipation ne sont pas une propriété des sujets qui peuvent se libérer, des sujets qui passent par là et qui peuvent se libérer, mais que c'est les conditions d'affranchissement et d'émancipation appartiennent aux choses mêmes comme elles sont proposées. qu'il y a bien des objets, des situations, des constructions qui sont par elles-mêmes, en elles-mêmes, émancipatrices. Et ça, il me semble que c'est du côté de Rancière qu'on peut trouver des cas qui iraient dans cette ligne de recherche que j'essaye de définir. En poursuivant sur cette ligne-là, j'évoquerai, je peux mettre ça au futur ou au conditionnel, volontiers ce dont le même Jacques Rancière fait son affaire dans les temps modernes. Il y va d'une conception non univoque de la temporalité, d'une pluralisation de l'expérience du temps, d'une désassignation du temps à la durée, et finalement d'une discussion avec Deleuze. Aussi la remarque de Pablo la semaine dernière qui me fait penser ça. Alors, qu'est-ce que je lis chez Rancière, particulièrement peut-être dans les temps modernes, mais pas seulement, comme je résume comme ça à ma façon, il y a des opérations, par exemple des écritures littéraires, mais aussi des danses, mais aussi des œuvres, etc., des objets, des choses déposées, comme je le dis moi, dans le monde, qui font jouer la temporalité de façon diverse, dont on ne peut pas comprendre l'importance si on ne se met pas à penser qu'il y a plusieurs expériences possibles de la temporalité, et si, je viens de le dire à ma façon, on ne désassigne pas le temps à la durée. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, si on veut s'ouvrir la pensée à autre chose que les logiques de pouvoir, même du pouvoir qui se remplace, qui se renouvelle, etc., qui n'est pas toujours le même, mais si on veut s'ouvrir la pensée à la possibilité de ce que Rancière appelle une émancipation, de ce que j'ai appelé le jeu vivant et vivace de l'humanité dans ces conditions multiples d'existence, si on veut s'ouvrir la pensée à ça, il faut désassigner le temps à la durée, c'est-à-dire tout simplement, il faut penser que la durée n'est pas une valeur, inévitablement essentielle ou majeure. Voilà. Donc, très simplement, il faut penser que ça ne dure pas. Il faut pouvoir penser que ça ne dure pas. Voilà. Alors, je pense que cette pluralisation de l'expérience du temps dont, à mon sens, Rancière parle dans les temps modernes, elle ne peut pas ne pas impliquer quelque part une explication avec Deleuze. Alors, je sais que cette explication avec Deleuze, elle a eu lieu pour Rancière. Je pourrais dire même une anecdote, je peux en témoigner, puisque peu de temps après le décès de Deleuze, il y avait eu à Paris 8 une journée d'études où il y avait à la fois Badiou et Rancière, j'y ai assisté, je m'en souviens très très bien, et je me souviens très bien des propos de Jacques Rancière à ce moment-là, qui était respectueusement et amicalement adressé à Gilles Deleuze qui venait de mourir, mais qui impliquait quand même une critique de Deleuze, et qui au fond, je pense, portait sur ce point que je résume brutalement en disant la durée, disons, bergsonienne, à laquelle Deleuze fait quand même volontiers référence, c'est pas le fin mot, c'est pas le dernier mot de l'expérience humaine possible de la temporalité, cette expérience étant liée à des tempos, si vous voulez. Il y a des moments où la vie s'accélère, des moments où elle se ralentit, il y a des moments où le temps des humains est compté. Par exemple, si je travaille à la chaîne, mon temps sera compté. Mais si je lis un ouvrage, une littérature émancipatrice, je ne compte plus mon temps, etc. Donc, il y a des modes de la temporalité. Et il faut désassigner pour penser l'émancipation, le temps de la durée. Et donc, je m'en tiendrai là. Peut-être une formule de conclusion consisterait à dire ce dont je suis en train de vous parler, c'est de quelque chose qui permet d'espacer le temps lui-même. Voilà. Manière de conclure sur les mots clés du séminaire, le mot clé étant espace. il faut penser une variabilité de la temporalité humaine. Voilà. Elle est historique, elle n'est pas constante, elle n'est pas durable, etc., etc. Bon, ça devait être rude pour vous d'écouter tout ça, mais c'est fini. Voilà. On peut discuter.
Merci
Merci
beaucoup, Pierre
beaucoup.
Damien.
Merci.
Merci beaucoup pour cette conclusion. Effectivement dense, mais on va pouvoir y revenir. Dense et extrêmement, extrêmement intéressante. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, pour toi, il n'y a pas de conditions suffisantes?
Oui, il n'y a jamais de conditions suffisantes.
Il n'y a que des conditions nécessaires, puisqu'on fait normalement cette distinction, mais enfin, il y a que des conditions. Oui, d'accord, oui.
Bah,
Vas-y.
des conditions nécessaires, bon, évidemment, il y a la fameuse formule, conditions nécessaires et suffisantes, en logique, en mathématiques, etc.
Oui.
Mais bon, en tout cas, je réponds, pour moi, il n'y a pas de conditions suffisantes, parce que s'il y avait des conditions suffisantes, il n'y aurait plus d'histoire. Voilà.
Oui.
Crois que c'est le fond de mon propos ou l'un des fonds de mon propos d'aujourd'hui. Alors après, est-ce qu'il y a des conditions nécessaires? Au fond, non. Parce que une condition n'est pas. L'existence humaine ne peut pas ne pas être conditionnée. Hein, je sais que tu m'as déjà dit cette formule chez moi, ne peut
Oui, mais
pas
que
ne
je comprends
pas.
mieux.
L'existence humaine ne peut pas ne pas être conditionnée. Donc, c'est ce que, pour ce qu'on va retrouver dans les obscurités de mon raisonnement de ce soir, quand je parle à un moment donné, on ne peut pas ne pas manger. Voilà. Mais c'est abstrait, ça. Bon. Concrètement, ce qui réalise la condition concrètement, hein, ce qui l'effectue dans une certaine mesure, ça, c'est pas conditionné. Enfin, c'est pas conditionné. En tout cas, ce n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire que je mange de la viande, par exemple. Il n'est pas nécessaire que je mange cuit comme ça. Il n'est pas nécessaire, etc. Et pourtant, je mangerai toujours quelque chose de particulier, cuisiné d'une manière particulière, etc. Voilà. Alors, il y a des conditions. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter là. Il y a des conditions. Elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont jamais suffisantes, sinon c'est la fin de l'histoire. Et n'y a rien qui soit nécessaire, sinon abstraitement.
Oui, d'accord. Tu disais pour commencer que tu étais idéaliste. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'idéaliste justement dans cette façon de penser de penser les conditions comme n'étant pas des causes?
C'est idéaliste par rapport à tous ceux qui nous serinent du matin au soir que, par exemple, il y a un système économique, voilà, et qu'on ne peut pas en sortir. Alors, par rapport à cela, co comment se désassigner de ces propos-là sans être un tant soit peu idéaliste, c'est-à-dire leur paraître, en tout cas à eux, idéaliste. J'ai quelques idées quant à l'existence humaine qui ne cadrent pas avec la proposition l'économie est l'alpha et l'oméga de l'existence humaine. Et donc, si c'est l'alpha et l'oméga de l'existence humaine, il faut tout faire évidemment, pour participer à la vie économique comme elle est. Ce que je ne pense pas. Il ne faut pas tout faire pour participer à la vie économique comme elle est. Et il faut laisser de la place. Il faut que laisser de la place dans l'existence humaine pour des sujets, enfin, des sujets qui ne sont pas économiques. C'est pas clair ce que j'ai fait ce soir. Je m'en veux toujours quand je revois après. Enfin bon, en fait, c'est ça que je reproche à Mauss finalement. Et peut-être au-delà de Mauss à une grande partie de l'anthropologie, étant donné la place de l'essai sur le don dans la pensée anthropologique, dans la théorie anthropologique, c'est finalement de faire de quelque chose qui apparaît comme généreux, je te donne quelque chose. Voilà. Un échange, c'est un échange économique. Voilà. Fondamentalement, il pense ça, même s'il ne le dit pas comme ça, comme quelque chose d'économique. Donc, ce qui tient, même le don, ce serait une économie. Ça, moi, j'ai peut-être tort, je n'arrive pas à penser comme ça. Je n'y arrive pas. Et
Donc,
c'est
il
ça que
y
j'ai essayé de vous dire ce soir de façon extrêmement confuse.
a une.
Je n'y arrive pas et j'essaye de substituer à ce qui fait que cette pensée tient, parce qu'elle a une cohérence. Je pense que pour sortir de cette pensée, il faut se doter d'une compréhension de l'utile qui n'est pas la compréhension dominante de. Alors pour faire tout ce travail, il faut accepter de passer pour un idéaliste. Parce que j'entends qu'il me faut. Moi, tu n'y es pas, la vie c'est pas comme ça, c'est-à-dire c'est bien beau dans les idées, mais dans la vraie vie, il faut être inséré, il faut, etc., faut pas s'émanciper.
Mais donc pour toi, l'idée du don résiste au fait du contre-don.
Pour moi, il est possible. Alors, l'idée du don résiste au contre-don. Non, Marcel Mauss a raison. Si le don est ce qu'il dit qu'il est, et il ne peut dire que le don est ce qu'il dit que parce que finalement dans son texte joue une certaine compréhension de l'utile et de l'intérêt, une certaine liaison de l'utile à l'intéressant. Mais est-ce que ça épuise toute compréhension possible du don. Ouais. Donc, je n'arrive pas à penser que je ne sois pas capable, alors ce jeu est générique, je ne parle pas de moi évidemment, de quelque chose que je dirais généreux, qui n'attend pas de contrepartie. Je pense que j'ai pu dans ma vie donner du temps à mes enfants. Je pense que je peux donner dans ma vie du temps à celle que j'aime ou que j'aurais aimé, etc. Donner. C'est-à-dire, si tu m'appelles, je serai là. Je me lèverai en pleine nuit si tu m'appelles, je pense aux enfants, si tu cries, si tu as mal, etc. Alors même que j'ai envie et besoin, au sens banal du mot, de dormir. Ça c'est. Où est le contre-don?
Est-ce que ce serait pas justement le du point de vue du groupe, c'est là qu'est l'intérêt. Enfin, du point de vue du groupe et même du point de vue de l'espèce, le don au niveau individuel est éventuellement un sacrifice de l'individu pour le
C'est
groupe.
le passage le plus obscur de mon exposé de ce soir. Quand j'ai vu les notes, là, en essayant de vous les lire, j'étais en colère contre moi. Mais tu le
Non,
dis
mais.
très bien, du point de vue du groupe. Voilà. Le passage, je me suis dit, finalement, c'est la première hypothèse qui fait qu'on pense la chose avec suffisance. Voilà. Du point de vue du groupe, il n'y a pas de générosité. Mais est-ce que le point de vue du groupe est le seul point de vue à partir duquel il nous faut penser l'existence humaine? Autrement dit, est-ce que l'anthropologie est la discipline de référence Donc, j'ai fait ce que j'ai pu ce soir de façon confuse pour dire, pour moi, non, ça n'est pas la discipline de référence, c'est une discipline.
Je trouve ça quand même éclairant, hein, ce que tu as apporté ce soir, et j'ai l'impression qu'il y a des clés de compréhension, enfin avec cette notion de condition et distinguée de celle de cause. J'ai l'impression qu'il y a des clés. Enfin, je trouve ça très intéressant là, et la façon dont ça te permet de critiquer Foucault. Ou en tout cas de proposer autre chose que ce que lui propose. Je trouve que je dis ça parce que tu as l'air toi-même de te trouver pas si clair que ça, ou peut-être trop complexe. Je trouve qu'il y a quand même des choses très, très, très éclairantes. Bien sûr, si d'autres ont des questions ou des remarques, je vois que Antoine lève la main virtuellement. Je t'en prie, Antoine.
Oui, merci Adrien. Dire déjà que je suis assez d'accord avec ce qu'Adrien vient de dire, Pierre Damien. Vous nous avez une fois de plus ouvert beaucoup de champs. C'est à nous après à accepter de les parcourir. Et donc je réfléchis à une qui est quand même en creux. Tu m'entends?
On t'a perdu pendant.
On a entendu. Enfin, moi j'ai entendu qu'il disait je réfléchis à et je n'ai pas la suite.
Quel suspense. Alors je vais réfléchir, je vais répéter. Vous m'entendez?
Oui.
Bien. Alors je réfléchis en vous écoutant. Donc j'ai dit à une notion que vous venez.
Ah là là.
D'obsolescence.
Oui.
On m'entend pas?
Si, ça a coupé. On t'a récupéré au moment où tu parles d'obsolescence.
C'est pénible. Je me suis acheté un beau casque exprès pour vous en plus. Bon. Vous m'entendez? Bon, donc la notion d'obsolescence, Père Damien, parce que d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous nous invitez à mettre en évidence une certaine obsolescence des modes de certains modes de vie, et que c'est quelque chose à soutenir. Et dans le même temps, bien sûr, quand on pense à l'obsolescence, on pense au fait qu'il y a une attitude à tenir, surtout à notre époque, qui est dans la lutte contre des formes d'obsolescence. Bon là. Qui sont plutôt du côté de la durée, de la durabilité des objets. Et donc, comment on se tire de là, de ce qui a l'air d'être un peu une aporie ou un truc un peu inextricable entre le fait que notre époque a des problèmes, quoi, puisque beaucoup d'objets qui nous entourent ne sont pas durables. Et en même temps, il faudrait en vous suivant trouver des objets qui mettent en évidence que la façon dont nous vivons n'est pas éternelle. Il n'y a peut-être pas de contradiction finalement.
Je te remercie de la remarque, Antoine, que je m'étais faite aussi en étant tout à l'heure, disons. Que le propos ce serait dommage que le propos que tu tiens, Pierre Damien, serve à justifier des pratiques d'obsolescence
oui.
Organisées, programmées, comme on dit.
Il faudrait clarifier, j'avais évidemment là, c'est une colle, comme on disait dans ma jeunesse étudiante, j'avais pas pensé à l'obsolescence. Je ne sais pas très bien quoi répondre. Ce n'est pas un mot qui me va, enfin, n'est pas dans mon langage. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il signifie au juste? D'où il vient? Qui nous l'a mis dans la tête? Pourquoi? Je pense qu'il faudrait quand même un peu regarder ça de plus près. Par exemple, est-ce que nous sommes capables de mettre ce mot dans nos phrases sans peu ou prou avoir dans nos esprits, même si nous ne le disons pas de manière explicite, l'obsolescence programmée. C'est-à-dire, parce que c'est un mot que nous pensons tout seul. dans les usages, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on le pense tout seul. C'est-à-dire que, on critique, c'est est-ce que c'est l'obsolescence ou est-ce que c'est la programmation d'obsolescence? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc, sur la programmation d'obsolescence, là, je suis d'accord pour dire que ça ne va pas, la programmation d'obsolescence. Parce qu'en réalité, la programmation, au sens en tout cas plus habituel du mot, c'est quand même l'enfermement de ce qui vient dans le déjà envisagé. Hein. Maintenant, est-ce que l'obsolescence en soi, c'est quelque chose qu'il faut refuser, rejeter, etc. Là-dessus, je suis pas si sûr. Enfin, vous savez bien, ou certains d'entre vous savent bien, que ça fait longtemps que le mot durable est un mot qui me gêne. Parce que il y a un argument très simple, c'est, je veux dire, on peut pas faire du durable une valeur absolue. Peut-être que le durable est une valeur dans certains cas, mais c'est pas une valeur absolue. Si le monde est injuste, qui peut soutenir qu'il doit durer dans l'injustice? Voilà. Alors, par ailleurs, dans l'expression développement durable, il faut pas oublier que durable vient qualifier développement. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit subrepticement de soutenir une idée de croissance interminable, développement durable. Ce qui est demandé, qui est requis au titre de la durabilité, c'est pas les choses elles-mêmes, c'est le développement. Voilà. Donc tout ça est quand même un peu gênant. Donc meilleure expression, c'est soutenable plutôt que durable. Et développement soutenable, c'est déjà problématique. Parce que faut-il du développement? Lequel? Jusqu'à quel point? Tout ça manque absolument de précision. Mais au-delà, j'allais dire, dans le cœur de la notion, moi je suis assez arendtien, comme vous l'avez entendu depuis 2 ans. Malgré tout, un monde qui aurait rompu toutes ses attaches avec la tradition serait catastrophique, mais un monde qui ne pourrait pas se renouveler, c'est-à-dire un monde qui durerait absolument comme il est, ça serait également, enfin moi je le dis maintenant, ça serait étouffant. Voilà. Il faut que ceux qui ne sont pas encore nés, quand ils seront là, puissent faire du monde quelque chose que nous n'avons pas fait. Ça serait ma réponse.
Je me demande aussi.
Je sais pas si j'ai répondu à toute la question. Non, je n'ai pas laissé de côté quelque chose, mais enfin bon, pour me le dire.
Je me demande si on ne pourrait pas se sortir de ce problème-là en faisant la distinction entre remplacement et modification. C'est plutôt une intuition, mais c'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir modifier, mais d'être obligé de remplacer, parce que c'est deux façons de se développer, disons, peut-être par remplacement, enfin de pas se retrouver exactement dans les mêmes conditions après qu'avant.
C'est vrai, tu as raison, j'ai oublié, parce que je l'avais dans l'esprit, puis j'ai oublié en parlant, je pense que dans la notion d'obsolescence, ça implique la notion d'une répétition. Hein, ce ne sont pas les mêmes, comment dire. L'objet ne dure pas, mais c'est son clone qui vient le remplacer. Hein. Donc finalement, ça se répète. Moi, je pense qu'il est important de pouvoir faire la différence, de pouvoir différer au sens de Derrida, la différence avec un A, c'est-à-dire que ça ne se répète pas. Et ce que j'ai essayé de dire ce soir, en me rapportant à l'anthropologie, c'est qu'au fond, Peut-être le roi Goura, c'est un anthropologue particulier de ce point de vue, mais en tout cas, s'il a montré quelque chose, c'est là, c'est que l'humanité aura été humaine aussi longtemps qu'elle n'a pas duré dans ses conditions d'existence, aussi longtemps qu'elle s'est variée, qu'elle ne s'est pas répétée. Voilà. Que, autrement dit, on peut laisser tomber un outillage pour passer à un autre.
Oui.
Donc là, il y a quand même. Est-ce qu'on peut nommer ça obsolescent? Ouais. Je mets, comme on dit, un joker, quoi. Je réponds pas complètement. Je me méfie du mot obsolescence. On pourrait aussi dire, il est important qu'on puisse, je ne dis pas qu'on doive toujours, mais qu'on puisse, dans certaines occurrences historiques, dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, si ça ne peut pas continuer comme ça veut dire, il ne faut pas que ça dure.
Mais je continue de penser que c'est peut-être la modification qui est une issue, la possibilité de modifier, mais parce que je pense, par exemple, même quand ça t'est arrivé de dire qu'est-ce qu'on fait des supermarchés, par exemple, ils existent, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait des objets qui sont là, quand est-ce les abandonner, est-ce que c'est les raser, ou est-ce que c'est au contraire, enfin pas au contraire, mais est-ce que c'est en faire autre chose?
Oui, non, mais modifier, moi c'est un éloge de la modernité. Hein. Modifier, c'est un mot qui m'en va très bien.
Oui.
Il m'est arrivé de proposer dans des conférences ou dans des textes modaliser.
Modaliser, oui.
Pas modéliser, hein, modaliser. C'est-à-dire, bon, c'est des mots qui sont proches, hein, modification, modalisation, etc. On peut évoquer aussi tout un vocabulaire dynamique, par exemple, déplacer. Déplacer une logique, hein, déplacer un principe constructif. On vient de m'envoyer un texte de Lacaton et Vassal qui est magnifique, qui est l'architecture, et donc en fait ils le disent eux-mêmes. Je viens de les lire. Ils le disent eux-mêmes, ils sont pour certaines de leurs constructions, ils ont déplacé les principes constructifs des supermarchés. Voilà, tu viens d'évoquer mon discours sur les supermarchés. Ben voilà, je pense à des choses comme ça. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de ruiner le monde, il ne s'agit pas, même dans ce que, quand Rancière parle d'émancipation, etc., il ne s'agit pas de faire disparaître tout ce qu'il y avait avant. Hein. Il s'agit que. Je n'ai cessé de dire ça cette année dans le séminaire. J'ai parlé du passage, autant que j'ai pu, etc. Le pouvoir se déplacer. C'est ça, un passant, c'est quelqu'un qui se déplace dans la société. Pouvoir se déplacer. Pouvoir être déplacé. J'ai pas fait. Il manquait de temps, mais j'y ai pensé. Enfin, c'est une des versions à laquelle vous avez échappé. Que j'avais écrit puis retiré finalement, le contraire de ce que j'essaye de soutenir dans le séminaire de cette année au nom de l'espacement, ça serait la convocation, le rassemblement, la fabrication d'une foule, c'est-à-dire une compacification, hein, une foule dense à travers laquelle, j'en ai parlé quand je parlais des hommes le dimanche, etc., serrée à travers laquelle on peut pas passer, on peut plus se déplacer. Voilà. l'hypothèse qu'on soit dans des situations qu'on ne pourrait pas déplacer et au sein desquelles on ne pourrait pas se déplacer m'effraie. Voilà. Être tenu à une situation, être tenu, ne pas pouvoir bouger, quoi. C'est terrible.
Mmh.
En même temps, il y a des choses auxquelles on tient. Il y a des êtres auxquels on tient. Mais le fait que nous tenions à certaines choses, à certains êtres, etc., n'implique pas de faire de la tenue, du fait de tenir, encore une fois, une obligation. Il faut penser que, je sais pas, une existence humaine, il y a pas beaucoup de nécessaire là-dedans.
Est-ce que vous diriez aussi, vous rajouteriez dans votre approche une critique de l'institution? Puisque ce qui s'institue, ce qui est institué, c'est aussi quelque chose.
Ça a coupé.
Est-ce que par conséquent, alors peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des formes d'institution qui paraissent nécessaire, mais en disant nécessaire, je me rends compte que c'est peut-être pas le bon mot, qui paraissent nécessaires aux organisations humaines, mais bon, là c'est pareil, c'est peut-être dans une certaine conception un peu dominante de l'anthropologie. Voilà, qu'en pensez-vous?
J'en penserai dans l'état où je suis ce soir, compte tenu de ce que j'ai essayé de dire ce soir, je dirais que ce que je proposerais de dire, c'est que les institutions sont utiles. Enfin, au sens naturellement que j'ai essayé de dire pour utiles. C'est-à-dire, elles sont des accompagnements, des équipements de l'existence humaine qui n'ont pas de nécessité, elles sont contingentes. Voilà. Elles sont historiques. On peut dire qu'elles durent relativement, mais elles sont pas à penser ni à se penser elles-mêmes comme inévitables. C'est quand les utilités sont proposées. Donc proposées, ça veut presque dire elles sont posées d'avance, dès ce qu'on appelle la conception, dès le projet. Voilà. C'est quand les utilités sont proposées comme inévitables, comme des nécessités, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire quand on ne peut pas être le passant dont je parle. Alors, il y a plein de choses autour de nous qui sont en fait des équipements utiles, qui n'ont pas toujours existé, qui n'existeront probablement pas toujours, enfin, qui ont peut-être une durée de présence qui dépasse celle d'une génération humaine, ça, mais à l'échelle anthropologique ou à l'échelle historique, c'est pas grand-chose. Il y a des équipements dont nous ne pouvons pas nous passer à l'instant où nous sommes là dans le monde, qui sont néanmoins des équipements historiques. Et peut-être c'est un malheur de plus qu'on croit de nos existences que d'être attaché à des utilités, qui du coup ne sont pas des utilités. sont vécues comme une nécessité.
Bonsoir. Déjà pour moi, c'était clair ce soir.
Ouais,
je voulais vous le
c'est
dire.
gentil.
Quand vous avez commencé à parler de l'utile et de comment l'utile c'est lié à l'intérêt ou peut encore s'entendre autrement, ça me faisait vraiment penser à la notion de technique. Ça me semblait très proche de la notion de technique.
Oui,
Comment elle
bien
peut
sûr.
être liée à l'idée de résultat, par exemple, ou au contraire, plus à une idée de l'art. Et j'avais presque l'impression que c'était la même chose, finalement, l'utile et la technique. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Enfin, il y a sûrement de la distinction à faire, mais en même temps, ça me semble être vraiment très superposable.
Non, je suis complètement d'accord avec ça. Et en plus, je pense que ça se vérifie historiquement, c'est-à-dire que le moment historique que j'ai évoqué où l'utile est lié à l'avantage et à l'intérêt, c'est-à-dire où on oublie une signification plus. Je sais pas, j'allais dire principale peut-être de l'utile. C'est aussi le moment où se sépare la notion d'art elle-même en deux catégories, technique d'un côté, art de l'autre, qui n'est pas une donnée. Qui n'est pas une donnée. Aujourd'hui, on a l'impression que ça va de soi. Il y a les œuvres d'art et les objets techniques. Mais si vous dites ça à un homme du 17e, c'est pas sûr qu'il vous comprend. Mais quelque chose qui s'est passé là au 18e. En tout cas, je ne sais pas si j'arriverai à l'écrire jamais dans un vrai livre, cette affaire-là. Je faisais des cours du temps de Paris 1, mais j'ai pas le. Bon, bref, j'essayais de le montrer surtout vers la fin, en lisant les textes, tout simplement. Je pense qu'on peut le montrer, que l'idée d'art est remaniée, elle est disjointe de la pratique technique au moment même où bascule, se modifie l'entente de l'outil. Donc, les choses sont. Les choses, je dis deux fois oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, et en plus, je pense qu'on peut. L'établir ou le montrer par un travail un peu d'archiviste de l'écriture. Les objets techniques ne sont pas plus utiles, enfin, comment dire, oui, les objets utiles sont ce qu'on appelle maintenant les objets utiles, en réalité, sont des objets dont la consistance n'est pas foncièrement différente de ce qu'on appelle désormais des œuvres d'art. Ce sont des objets possibles, pas des objets nécessaires, ce sont des objets possibles. Même les objets qu'on garde, les objets précieux, les objets qu'on cultive, etc., même ces objets-là ne sont pas nécessaires.
Bien, Damien. Merci encore pour cette séance vraiment très éclairante aussi. Hein. Je rejoins beaucoup les avis des autres. J'avais une question qui n'est pas vraiment bien formulée, qui est peut-être un peu compliquée. Je la pose telle qu'elle. C'est notamment quand tu as parlé de la différence, la distinction entre le point de vue abstrait et le point de vue concret. Et je me demandais pour toi, est-ce que l'abstrait domine le concret? Et en fait, je me demandais des questions comme ça. Est-ce que, au fond, la systématisation de la condition économique sur les autres conditions, c'est peut-être mal dit, mais ce ne serait pas une pratique d'abstraction qui viendrait dominer le concret et peut-être Et peut-être, je continue mes questions, mais faudrait-il, pour penser l'existence humaine, s'abstenir d'une pratique d'abstraction? C'est peut-être très compliqué ce que je viens de dire.
Finalement, oui, peut-être que ce n'était pas si obscur ce que j'ai dit ce soir, parce que bon, apparemment, vous me renvoyez des. J'ai qu'à dire que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, comme dans la réponse précédente. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la suffisance sociale. La surestimation de l'économie, de l'importance de l'économie dans l'existence humaine, etc., c'est la domination de l'abstraction sur le concret des existences. Je suis absolument d'accord avec ça. Voilà. J'ajouterais que moi, je ne rejette pas Marx. Je pense que c'est un auteur qu'il faut continuer à lire. Et que il doit y avoir quelque chose comme ça chez Marx, quand il introduit le Capital, en particulier le début du livre 1, etc. Bref, mais en tout cas, ce que je veux dire a quelque chose de ce type-là. Autrement dit, ceux au pluriel, hein, les contemporains, ceux qui font de l'économie le nec plus ultra de la compréhension des conduites humaines et qui font de ça l'occasion de leçons existentielles, c'est-à-dire qu'ils nous disent ce qu'il faut qu'on fasse, comment il faut qu'on vote, comment il faut qu'on se conduise, etc. Bon, vous voyez le genre de personnes auxquelles je pense. Bon, ceux qui nous disent ça sont des gens, en fait, qui ont fait leur, qui ont adopté un point de vue abstrait sur l'existence humaine. Parce que si ils regardent concrètement l'existence des humains, ils ne peuvent pas dire des choses pareilles. Ils ne pourraient pas dire des choses pareilles. Donc en effet, il y a un lien, je suis absolument d'accord. J'ai un peu oublié la toute fin de ton expression qui m'a laissé un tout petit peu plus perplexe, mais enfin, sur le. L'entendre global de la chose, oui, c'est ça que j'ai essayé de vous dire ce soir.
Oui, c'est en fait, je me disais qu'il y avait vraiment un lien entre le fait que tu distingues abstrait, concret, et que avant tu parlais de justement du pouvoir,
oui, bien sûr.
Et du blocage des conditions, et donc. Qu'il y a dans la pratique d'abstraction un pouvoir dont il faudrait aussi se méfier pour penser l'existence humaine dans ce que ça a de plus concret, quoi.
Enfin, on pourrait dire les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est en commençant par tenir compte du concret des existences qu'on peut développer une pensée libératoire. Voilà. Que si on se tient au niveau des abstractions, on n'y arrivera jamais.
Ouais.
On pourrait même dire finalement que quelqu'un qui prend l'ascendant sur un autre, c'est-à-dire qui exerce du pouvoir, c'est quelqu'un en fait qui ne considère dans cet autre qu'un humain abstrait, qui ne considère qu'abstraitement l'humanité dans l'autre. Voilà. Alors ça, j'aurais des textes pour ça. Du côté de chez Aristote, j'ai déjà cité ça dans d'autres moments, Aristote, Marx, ou même, pour changer de registre, Jack London.
Ah, où ça dans Jack London?
Bonne question, parce que le titre de l'ouvrage est en train de m'échapper. Il est à Londres et, pour faire un reportage et il se fait embaucher dans les conditions de la fin du 19e. Et il en fait, on appellerait ça aujourd'hui un reportage, un raconte. Je trouve que que ça montre très très bien ça, que ceux qui sont du côté du pouvoir sont ceux qui considèrent abstraitement si considéraient concrètement la vie des pauvres gens, ils leur feraient un chèque tout de suite au niveau de leur richesse. Hein. Ils ne pourraient pas supporter. C'est parce qu'ils sont capables de faire abstraction du concret de l'existence des classes laborieuses que ces classes sont dans un état de misère épouvantable. Enfin, mais lisez, je retrouverai la référence. Je l'ai cité dans un article pour la revue Ligne. Mais bon, ça va me revenir tout à l'heure.
Peu importe.
Le peuple d'en bas, peut-être.
Oui, c'est peut-être ça.
Ça, c'est très éclairant.
Je pense avoir trouvé la référence, je la mets dans le chat.
Merci. Merci.
Pierre Damien, il est 19h10. Donc, si peut-être que certaines personnes vont commencer à partir. Donc, je pense que... Enfin, je voulais qu'on te remercie collectivement. Enfin, merci beaucoup pour le travail, puisque c'est terminé. Et puis, même si tu n'aimes pas beaucoup les applaudissements, je sais que tu tiens pas toujours. Quand même, bravo. Puis, bien sûr, on peut... continuer avec les personnes qui restent.
Bon, je peux couper l'enregistrement là maintenant.
Je pense que oui. Oui, disons qu'on coupe. Le peuple d'en bas, le peuple de l'abîme.